Jean-Jacques Gandini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, vous avez sorti le procès Papon il y a déjà quelques années, et là il vient d'être réédité. Alors, vous êtes avocat, vous dites dans la préface, pour défendre les exclus. Et vous dites aussi que vous êtes intéressé très jeune à un ouvrier allemand, propulsé chancelier du Troisième Reich. Et ce qui vous a donné ensuite un enchaînement en vous intéressant à la France de Vichy. Qu'est-ce qui vous a conduit à suivre ce procès en 88, le procès Papon ?
98. Oui, d'une part parce que, comme je le dis dans mon avant-propos, en dehors du droit, j'ai fait sciences politiques également à Grenoble, et j'ai fait à l'époque, en 71-72, ça ne date pas d'hier, un séminaire sur le nazisme. Un séminaire sur le nazisme avec un prof de droit, et qui est également enseignant en Sciences Po, qui s'appelait Gustave, je dis il s'appelait parce qu'il est décédé il y a quelques années, Gustave Pézer, qui est très connu pour les élèves, pour les étudiants en droit, pour ses manuels de droit administratif, mais qui là a fait un séminaire sur le nazisme parce que lui-même était d'origine allemande. Il a fui l'Allemagne en 1939, à l'âge de 10 ans, il s'est réfugié en France. Il a réussi à survivre, lui, mais beaucoup de sa famille est décédée, assassinée à Auschwitz. Et donc, il était très marqué par son passé. Et donc, il nous a proposé ce séminaire sur le nazisme. C'est comme ça que je connaissais quand même un peu l'histoire, parce que ça serait trop long à expliquer ici. Mais j'ai eu moi-même, par ma famille, disons, des acquaintances avec ce qui s'est passé à l'époque par mon grand-père qui était immigré italien en France, et donc j'ai été sensibilisé par cette période. Donc lorsque j'ai su en 1997, puisque je suis allé des droits de l'homme également depuis 1977, donc lorsque j'ai su par les gens de la direction que le procès Papon allait enfin se tenir, je dis bien allait enfin se tenir, puisque ça faisait 16 ans que j'étais au courant, puisque c'est mon ami avocat, malheureusement décédé depuis, Gérard Boulanger, qui a été à l'initiative du procès Papon dès la fin de l'année 1981. Lorsque donc le procès s'est décidé en 1997 pour être jugé à Bordeaux, je me suis mis en guillemets en congé provisoire de ma profession, pour pouvoir assister à ce procès et à rendre compte pour la Ligue des droits de l'homme. Ce que j'ai fait, puisque dans le cadre de leur journal qui s'appelait à l'époque « Hommes et liberté » et désormais « Droits et liberté », j'ai rendu compte régulièrement du procès. Et ensuite, dans la foulée, j'ai donc écrit un ouvrage sur ce qui s'est passé à Bordeaux entre octobre 98 et avril 98.
Alors, on peut dire que sur cette période, il y a eu trois grands procès. Le procès de Barbie, qui était SS, le procès Touvier, milicien, et Papon, qui lui est un haut fonctionnaire. Donc, Papon, c'est une figure emblématique de la continuité de l'État. Et donc, ce procès s'attache aussi à cette question d'une certaine continuité républicaine, dont Noiriel parle dans les origines républicaines de Vichy, de cette dérive fasciste de la Troisième République. On y est toujours.
Oui, effectivement, ce qui est assez extraordinaire, qui a été rappelé au procès Papon, c'est son propre itinéraire, que je rappelle à grands traits, mais qui est très éclairant, puisque Papon a servi l'État, quel que soit le régime en cours, puisqu'il a commencé en 1936, sous le Front Populaire, a continué avec Vichy entre 1940-1944, récupéré aussitôt la libération par les gaullistes, puis sous la quatrième par les socialistes, devenu préfet de police à la fin de la quatrième sous le radical de gauche, en guillemets, de l'époque, Félix Gaillard, et confirmé par De Gaulle comme préfet de police en 1958 jusqu'en 1967, et qui explique également que Papon, outre donc ce qui s'est passé à Vichy entre 1940 et 1944, comme je l'indique dans le dernier chapitre de mon livre, il y a également le Papon Paris avec le massacre des Algériens le 17 octobre 1961. Donc effectivement, comme vous le relevez très justement, ce qui intéresse dans ce procès, au-delà du procès lui-même, c'est la façon dont se comportent les fonctionnaires de l'État par rapport à leur comportement en fonction des situations. puisque Papon n'a pas arrêté de dire, moi, certes, j'étais haut fonctionnaire, puisqu'il était quand même secrétaire général de la préfecture de Bordeaux, mais je n'ai fait qu'appliquer les ordres. Et non seulement je n'ai fait qu'appliquer les ordres, mais en plus, j'étais, moi, Papon, à Bordeaux, en zone occupée, donc j'avais, comme il essayait de le faire croire, j'avais l'épée des Allemands dans les reins. Sous-entendu, je n'avais pas le choix. Donc, il n'avait pas le choix, d'après lui. Or, et l'histoire est là pour le prouver, d'autres fonctionnaires, peu, c'est vrai, mais un certain nombre, ont dit non, eux, à Vichy. Certes, ils ont été sanctionnés, mais pratiquement aucun n'est parti dans des camps. Ils ont simplement été révoqués ou mis à la retraite d'office. Donc le risque pris était minime. Et il ne faut pas oublier qu'un fonctionnaire, s'il a effectivement une éthique fonctionnelle, il a également une éthique personnelle de conviction citoyenne qui fait que on n'obéit pas à des ordres manifestement illégaux. Ça a d'ailleurs été confirmé par la jurisprudence administrative dans les années 50. Et par conséquent, Papon aurait très bien pu dire non, d'autant plus que dans l'affaire de Bordeaux, au niveau des convois de juifs, à l'époque, il y avait eu, en guillemets, un deal entre les Allemands et Vichy, à savoir qu'on ne déportait que les juifs étrangers. Et en réalité, comme il y avait des quotas à respecter, soi-disant, eh bien, dès le départ, dès août 1942 à Bordeaux, on a mis également dans les trains des juifs français. Donc Papon, effectivement, est entièrement responsable, à la fois par rapport aux ordres reçus, mais personnellement.
Donc le procès Papon, réédité aux éditions Le Passager clandestin, quelque part, dans sa portée, c'est aussi un petit peu le procès de Gaulle, qui n'a pas révoqué les fonctionnaires et liquidé des centaines d'Algériens.
Effectivement, il y a un double problème par rapport à De Gaulle. Il faut rendre à César ce qui revient à César. De Gaulle, 18 juin 40, rien à dire, au contraire, parce que c'est pas le seul, hein, mais un des premiers résistants. Je rappelle quand même que Jean Moulin a lui résisté en désobéissant en tant que préfet d'Eure-et-Loir aux Allemands le 17 juin 1940, donc avant. Et lorsque les Allemands ont voulu faire signer un ordre pour dire que les soldats noirs africains étaient responsables d'exactions, ce qui n'était pas le cas, et qu'il a refusé, il a été menacé et torturé, et il a fait une tentative de suicide, mais il a refusé, lui, d'obéir aux ordres allemands. Je vais faire la parenthèse. Pour revenir au général de Gaulle, eh bien, je disais tout à l'heure, très peu de fonctionnaires ont dit non à Vichy. Donc, en septembre-octobre 1944, lorsque la France a mis hors le régime de Vichy et qu'une certaine légalité républicaine s'est remise en marche, avec qui ? Pour faire fonctionner l'État. Et à l'époque, ce qui était montré du doigt, c'était les fonctionnaires qui avaient du sang sur les mains par rapport aux résistants. Les juifs, c'était pas leur problème, d'autant qu'en août 1944, ceux qui étaient partis de France et qui étaient encore survivants, parce que je rappelle que les 80% ont été assassinés dans les chambres à gaz à Auschwitz, ceux qui existaient encore, ils étaient encore dans les camps, donc ils n'étaient pas là. Les hauts fonctionnaires ont été sanctionnés par rapport à leur attitude de collaborateurs. Il s'est trouvé que Papon, eh bien, on n'a bien évidemment pas du tout parlé de son rôle par rapport aux Juifs, et comme un certain nombre d'autres fonctionnaires qui ont senti le vent tourner, dès fin 43, voire début 44, il a effectivement donné quelques gages ponctuels à la résistance locale, notamment en cachant un ou deux aviateurs anglais qui avaient atterri près de Bordeaux dans le cadre de la résistance. Et donc, il s'est servi de ce guillemets brevet de résistance auprès de Gaston Cuzin, qui était l'envoyé de De Gaulle comme commissaire du gouvernement à Bordeaux, lequel Cuzin n'avait pratiquement personne sous la main, et a été finalement bien content d'avoir quelqu'un qui, effectivement, Papon a une certaine intelligence fonctionnelle et donc a été capable de remettre en route la machine, cette fois-ci non plus pour le compte de Vichy, mais pour le compte du nouveau régime gaulliste et de la 4ème République qui s'en est suivi.
Alors toujours une réduction d'actualité, hein. Si on songe à François Bayrou qui en 97, alors président de l'UDF, juge qu'il est inutile de se couvrir la tête de cendres et de se flageller, jugeant ce procès inutile.
Oui, non, M. Bayrou est mieux fait de se taire, d'autant plus qu'il a été rappelé à l'ordre, si on peut dire, avec l'affaire de Betaram, qui est une affaire aussi assez incroyable de manipulation et de loi du silence, alors que lui-même était à l'époque où cette affaire a éclaté ministre de l'Éducation nationale, il faut le rappeler. Mais effectivement, à l'époque de 1997, il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul, je dirais, malheureusement, même dans le camp des gaullistes, puisque la force qu'il croyait importante de Papon au début de son procès, c'est qu'il est venu faire témoigner tout un tas de gaullistes, guillemets, importants, ou de résistants importants, en disant, un, nous, on n'était pas au courant de la question juive et la solution finale, de Papon, effectivement, nous a aidés. Heureusement que les archives étaient là et ont pu parler pour retenir la situation. Et heureusement que pour expliquer le caractère de Papon, il y a eu justement ce témoignage extraordinaire de Jean-Luc Einaudi qui a rappelé en 2 heures de temps sans notes un témoignage formidable sur ce qu'a fait Papon le 17 octobre 1961, montre bien également une continuité entre le Papon Bordeaux et le Papon Paris.
Alors, le procès concerne de manière indirecte le cas de fonctionnaires ayant servi sous Vichy. Papon étant lui-même chargé de la rédaction d'un projet de loi d'amnistie qui a été voté en 1946. Comment expliquer que toute l'administration soit restée en place dans ce procès sans être inquiétée? Et quelles conséquences on peut voir aujourd'hui de cela?
Oui, c'est ce que je disais. En fait, très peu de fonctionnaires ont résisté. Donc, pour faire repartir la machine administrative, il fallait quand même un certain nombre de personnes, et qui étaient relativement compétents pour remettre en marche l'appareil administratif, eh bien ceux qui apparemment avaient le moins collaboré directement, du moins par rapport à la résistance. Et c'est pour ça que la question s'est également posée de la même façon pour la police. La police aussi a été épurée en grande partie, mais la police pareil, la police, certains membres de la police effectivement en août 1944, ont retourné leur veste à temps et ont participé effectivement à la résistance dans Paris occupé à l'époque, et donc ont pu donner des gages et faire en sorte qu'ils soient récupérés à la libération et qu'il y ait une nouvelle police qui soit mise en place. Mais cette affaire a pris de telles proportions et il y avait tellement besoin de nouveaux cadres et de faire, comment dirais-je, du passé un peu table rase, ce qui explique un peu le comportement de Bayrou en 97, qu'en 51, 7 ans après, il y a eu une loi d'amnistie très importante qui fait qu'un certain nombre de collaborateurs qui avaient été entre-temps condamnés, la plupart par contumace, puisqu'ils avaient fui, eh bien, ont tellement été réhabilités après avoir été amnistiés au nom justement de la continuité de l'État et du fait qu'il fallait maintenant repartir sur de nouvelles bases. Donc, les fonctionnaires, effectivement, de la façon dont ils se comportent, eh bien, c'est toujours, toujours d'actualité. Et je rappelle à la fin de mon ouvrage l'épisode Brigitte Lainé, puisque si Jean-Luc Einaudi a pu être relaxé lors du procès de Paris, c'est parce qu'il a pu faire attester à l'audience la conservatrice des archives de Paris qui avait connaissance de ce qui s'est passé le 17 octobre 61, et qu'elle a accepté de témoigner, mais à ses risques et périls, puisque elle a fait prévaloir justement son éthique de conviction sur son éthique de fonctionnalité, et elle l'a payé cher, puisqu'elle a été mise au placard pendant plus de 15 ans, et non seulement par le maire de l'époque, qui était un maire UDR, hein, le nom me reviendra, mais par son successeur, qui pourtant un certain Delanoë, ministre socialiste également par ailleurs, et qui l'a maintenu au placard également.
Alors Jean-Jacques Gandini, vous évoquez le rôle de la police, hein, que cette affaire interroge aussi sur la violence des forces de l'ordre en France, le maintien de l'ordre par la peur, utilisé par Emmanuel Macron qui a éborgné les gilets jaunes. Dans un ouvrage récent, le dernier ouvrage d'Emmanuel Todd qui vient de sortir, il revient sur le vote RN. 50% des policiers votent aujourd'hui RN. Est-ce que c'est toujours un problème, cette police aujourd'hui qui est aux mains en partie de l'extrême droite?
Oui, juste pour rappeler que le maire en question, le nom revient, c'est un certain Jean Tiberi. Ceci étant dit, par rapport à la police, effectivement, il y avait quand même eu une épuration en partie à la libération en 1944. Et je rappelle quand même que dans les années 50 et 60, voire ensuite dans les années 70 même, il y avait une fédération de police qui s'appelait la FASP, Fédération Autonome Sociale, je crois, des policiers, qui était dirigée par certains monates qui étaient à l'époque, effectivement, proches des socialistes. La police n'a pas toujours été de droite et d'extrême droite, même si ça a toujours été une tendance importante. Mais elle s'est aussi décrédibilisée, puisque la FASP de l'époque, aussi du temps de Mitterrand II, si on peut dire, a elle-même été, comment dirais-je, atteinte par des problèmes de corruption. Et donc, il y a eu des procès par rapport à ça. Et ensuite, effectivement, avec la droite revenue au pouvoir, ça a accentué la façon dont l'ordre devait être respecté. On ne s'intéressait, une fois de plus, qu'aux conséquences, sans se préoccuper des causes. Et on a fait rentrer dans la police, dont le niveau de recrutement a été abaissé, des gens qui, normalement, n'auraient même pas dû pouvoir y postuler. Et surtout, sous l'influence d'anciens qui avaient, pour les premiers d'entre eux, fait leurs armes aussi, il faut le rappeler, en Algérie, avec ce qu'on sait sur ce qui s'est passé à cette période, il y a eu effectivement donc une droitisation de plus en plus importante des forces de police. Et vous parliez effectivement des Gilets jaunes. La répression au niveau des Gilets jaunes a été sans commune mesure avec ce qui se passait avant, avec un armement de plus en plus sophistiqué, et vous disiez malheureusement justement, des dizaines de personnes éborgnées et des centaines victimes de traumatismes importants, dont les procès commencent pour certains à venir devant la justice. Mais effectivement, cette droitisation de la police, on le constate, il y a quand même quelques policiers qui ne sont pas au RN, puisque je suis moi-même, avec le syndicat d'avocats de France dont je suis parti, en contact avec la CGT Police qui existe, bien qu'elle soit minoritaire, très minoritaire même, mais elle existe et elle essaie de bouger également de son côté. Mais la tendance générale, malheureusement, est cette droitisation importante. Et donc le risque, c'est que si justement, et avec les élections à venir, eh bien, il y aurait un glissement encore plus à droite qu'actuellement, eh bien, la police est déjà prête à servir ce nouveau régime.
Alors, en attendant le verdict des policiers éborgneurs, revenons au verdict de Papon. Il est condamné à 10 ans pour complicité de crimes contre l'humanité concernant les actes d'arrestation, de séquestration, de déportation vers Drancy, puis vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Comment vous avez apprécié ce jugement?
Justement, c'est un jugement mi-chèvre, mi-chou. Vous l'avez dit justement, il a été condamné pour les faits de séquestration, d'arrestation et d'envoi dans les camps, mais n'a pas été retenue la complicité d'assassinat, pour laquelle il a été inculpé également, à savoir la connaissance de la solution finale, savoir que les Juifs qui partaient de Bordeaux à Drancy allaient automatiquement aller à Auschwitz où ils seraient liquidés dès leur arrivée. Et là, on peut rappeler quand même la responsabilité importante de l'État dans cette affaire, et en l'espèce donc du parquet de Bordeaux, puisque je disais au départ, si l'affaire est sortie, ce n'est pas peut dire, grâce à la justice, c'est grâce à certaines parties civiles qui ont décidé, lorsqu'on a eu la révélation, entre guillemets, que Papon, effectivement, avait eu un rôle important pendant cette période-là. Du coup, je m'en fais pas mal. Fait comprendre que, en réalité, il était bien au courant. Pourquoi ? Puisqu'au cours du procès, à un moment donné, pour essayer de se sauver, il a essayé de dire que, notamment une certaine Nicole Grimberg, une petite enfant, oui, on l'a sauvée, on a empêché qu'elle parte avec sa famille, parce qu'on savait le sort qui l'attendait. Klersfeld a aussitôt bondi en disant « Mais c'est faux, vous lui dites que vous l'avez sauvée, mais elle a réussi à s'en sortir, effectivement, mais pas sa famille, ils sont tous morts. Et qu'est-ce que vous nous racontez là, en disant qu'on l'a sauvée par rapport à ça ? C'est que, mais il n'a pas su, je veux dire, transformer l'essai et pousser Papon à reconnaître qu'il avait été au courant de la solution finale, mais ce lapsus est très révélateur, et à mon sens, en poussant les choses plus loin, et en voyant tout ce qui s'est passé par la suite, il ne pouvait pas ne pas savoir le sort qui attendait les Juifs à Auschwitz. Par conséquent, au courant de la solution finale, il aurait dû être condamné également pour cette complicité d'assassinat à laquelle elle a échappé, raison pour laquelle il a été condamné qu'à 10 ans, alors que normalement, dans ces affaires-là, eh bien, c'est la réclusion à perpétuité qui aurait dû être prononcée. Il ne s'agit pas de prendre la prison comme une solution, bien évidemment, mais dans le cadre d'une gradation des peines, on ne peut pas comprendre que Papon, pour ce qu'il a commis, ne peut être condamné qu'à 10 ans de prison. D'autant plus que, vu son âge, effectivement, il aurait pu faire valoir ensuite une demande d'aménagement de peine, ce qui n'est pas manqué de faire d'ailleurs, puisque en réalité, après s'être enfui de France et pour enfin être ramené et être déchu de son pouvoir en cassation et donc d'être amené à la prison de la santé pour purger sa peine, au bout de 3 ans, il a réussi à sortir en faisant état de son état de santé, mais d'après le certificat médical qu'il a produit, il aurait été en état de grabatérisation avancée, alors qu'en fait, il est sorti de la prison de sa santé sur ses deux jambes, ni vu ni connu, et il a encore vécu 5 ans de plus avant de décéder à l'âge honorable de 97 ans.
Alors ce procès, un petit bout d'histoire juridique qui rejoint la grande histoire et qui rejoint aussi l'actualité, si on fait référence récemment à la visite de Bardella accueillie par Netanyahou en Israël, ou plus récemment encore par le boycott des parlementaires du RN à la suite de la minute de silence en hommage à Abou Bakar et Cissé assassinés il y a à peine une semaine dans une mosquée d'une cinquantaine de couteaux. Ça continue. Est-ce que ça va s'arrêter un jour ?
Non, le problème, il est là. Le problème, c'est également un problème de droitisation de la société et comment essayer d'y résister par la conscientisation et l'éducation. C'est très important de rappeler qu'il faut absolument que tous ces faits soient étudiés par les élèves en classe, qu'il y ait des véritables cours d'histoire qui fassent le point sur tout ce qui s'est passé en France, aussi bien intéressant et ce qui était malheureusement moins intéressant comme la colonisation et toutes les conséquences que ça a impliqué. Et par conséquent, ce qu'il faut, c'est vraiment s'opposer, mais je dirais frontalement, je dis bien frontalement, aux idées de l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle est hors du champ républicain. Elle essaye par tous les moyens de se banaliser. Vous l'avez rappelé justement avec ce fait un peu sidérant qui est que Bardella se soit pointé en Israël alors que le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a été condamné moult fois pour négationnisme, notamment par rapport aux chambres à gaz. Il faut rappeler que le FN, qui est le prédécesseur du RN, a été constitué par des antisémites, des collabos et des anciens Waffen-SS. et que lorsque Jean-Marie Le Pen, dont sa fille dit s'être désolidarisée de ses excès les plus importants dans les années 2010-2012, eh bien, lorsque son père est décédé au début de cette année, aussi bien elle que Bardella ont dit « Nous assumons l'héritage de Jean-Marie Le Pen ». Par conséquent, on voit bien la duplicité totale de ce parti. Et s'il s'est rendu en Israël, c'est uniquement parce que actuellement, même s'il y a cette dérive en Israël, date pas d'hier, mais elle s'est aggravée depuis que Netanyahou est présent au gouvernement, droite extrême alliée à l'extrême droite, donc un régime qui évidemment ne peut que plaire au RN, pour qui l'ennemi c'est l'autre avec un grand A, l'autre étant tous ceux qui sont différents. Bien évidemment, actuellement est mis en avant la figure de l'arabe, du musulman et du noir, mais également du juif, quoi qu'on en prétende. Et ils sont toujours dans le même cas. Et d'ailleurs, il y a eu encore récemment, on l'a bien vu, des condamnations de personnes se réclamant de l'extrême droite pour des attitudes et des écrits négationnistes, antisémites, au-delà de ceux qui ont dû être condamnés, poursuivis pour des actes effectivement anti-musulmans.
Merci Jean-Jacques Gandini. Donc le procès Papon qui vient d'être réédité, réactualisé, préfacé par Joachim Chapoutot et postfacé par Arié Halimi aux éditions Le Passager Clandestin. Au revoir Jean-Jacques, merci.
Au revoir et merci pour cette interview.